Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague, une actualité dont voici les principaux titres. Politique tout d'abord et législative 2017, Stan décide de ne pas se rallier au Parti chrétien démocrate. Une délégation de chefs d'entreprise tchèques effectue une visite en Irak. Et puis enfin en football, le Slavia Prague et le Viktoria Plzeň sont en ballotage favorable après les matchs allés du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. On commence donc avec de la politique et de la politique intérieure. Le mouvement des maires et indépendants, STAN, a rejeté la proposition du Parti chrétien démocrate, membre de la coalition gouvernementale, de constituer une liste de candidats communes en vue des prochaines élections législatives qui se tiendront en octobre prochain. L'information a été communiquée par le président de STAN, Petr Gazdík. Les deux partis aurait dû former une coalition dans l'optique des législatives. La semaine dernière, le projet avait été mis en cause par les chrétiens démocrates et ce en réaction aux différents sondages selon lesquels cette coalition risquerait de ne pas obtenir les 10% de suffrages nécessaires pour pouvoir siéger à la Chambre des députés. Une quinzaine de représentants d'entreprises tchèques actives dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment se rendent ce mercredi en Irak. Ils accompagnent les vice-présidents des deux chambres du Parlement tchèque, respectivement Jan Bartošek et Miluše Horská, a annoncé la Chambre de commerce tchèque. Les entreprises tchèques qui se consacrent à la rénovation des monuments historiques et à la modernisation des aéroports et des lignes ferroviaires sont également représentées dans cette délégation qui se rendra d'ici le 1er août successivement dans les villes de Bagdad, d'Erbil et de Souleymaniyah. Tout cela avec l'objectif de revenir sur le marché irakien. En 2016, les exportations tchèques vers l'Irak ont atteint 3 milliards de couronnes, soit près de 120 millions d'euros. Le gouvernement a confirmé l'intention de la République tchèque d'accueillir le siège de l'autorité bancaire européenne, actuellement basée à Londres. Cet organisme de régulation des banques fait partie de plusieurs institutions qui doivent quitter la capitale britannique avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Chargé de la candidature de Prague, Karel Dobesch a déclaré pour les sites E15 que l'autorité bancaire européenne pourrait siéger dans un nouveau bâtiment situé dans le quartier pragois de Pankratz, dont la construction sera achevée d'ici 2019. Prague a déjà confirmé sa capacité à accueillir une importante institution européenne en étant le siège de l'Agence européenne du système de positionnement par satellite. Néanmoins, c'est Luxembourg qui revendique la relocalisation de l'autorité bancaire européenne en son sein. On passe au sport avec du football. C'est une entrée en matière plutôt positive dans la compétition qu'ont réalisé mardi soir les deux clubs tchèques en lice en Ligue des Champions à l'occasion des matchs allés du troisième tour préliminaire. Grâce à un penalty, le Slavia Prague a battu le Baté Borisov 1-0. De son côté, le Viktoria Plzeň a ramené un résultat nul 2-2 de son déplacement en Roumanie sur la pelouse du FC Steaua Bucarest après avoir mené 2 fois au score. Les matchs retour des deux confrontations seront disputés à Minsk en Biélorussie et en Bohême de l'Ouest mercredi prochain. On retrouve maintenant Magdalena Rosinkova, Magdalena qui nous accompagne pour la suite de ce programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information et merci à vous d'être à l'écoute de ce programme d'actualité de Radio Prague. Aujourd'hui, nous accueillerons Vendulka Hola, directrice générale adjointe de l'administration des douanes tchèques, et elle nous parlera de la coopération franco-tchèque dans le domaine douanier. Mais avant cela, nous nous intéresserons à l'industrie de l'armement tchèque qui bat en ce moment des records à l'export. Dans notre rubrique historique, nous vous ferons découvrir le destin du peintre et sculpteur tchèque d'origine juive, Trude Sojka. Très bonne écoute à toutes et à tous. « Avec une valeur totale estimée à près de 700 millions d'euros en 2016, les ventes d'armes de la République tchèque à l'étranger se portent au mieux. Une réussite pour les quelques 250 entreprises du secteur qui soulèvent tout de même quelques questions, comme nous l'explique Delannery.
C'est avec maintes vidéos de propagande aux accents grandiloquents que l'armée irakienne, premier client des sociétés tchèques exportatrices d'armes, présente ses nouvelles acquisitions. Le pays anciennement dirigé par Saddam Hussein représente ainsi 10% des ventes tchèques dans ce domaine précis, juste devant les Émirats arabes unis. À Bagdad, l'avion de chasse L-159, produit par la compagnie Aero Vodohody, est particulièrement apprécié. Ces ventes ont d'ailleurs permis à l'appareil de redécoller, alors que la compagnie avait cessé d'en produire entre 2003 et 2016. Elle en a vendu 12 à l'aviation militaire irakienne l'année dernière et prévoit désormais une production annuelle de 26 engins, nouvelle génération de L-39 comprise. Les experts prévoient cependant un ralentissement de la croissance des ventes dans les prochaines années. En cause, la pénurie de main-d'œuvre notamment, comme l'explique Yirji Hinek, président de l'Association de l'Industrie de la Défense et de la Sécurité.
Il y a très peu de personnel qualifié sur le marché du travail tchèque. L'industrie de la défense possède beaucoup d'experts dans des domaines très spécialisés qui ont déjà passé l'âge du départ à la retraite. Ma crainte est donc que nous soyons dans l'impossibilité de retrouver des experts du même niveau lorsque cette génération d'anciens partira vraiment à la retraite.
C'est là un enjeu majeur pour l'industrie de l'armement tchèque, alors que ces entreprises enregistrent des succès symboliques sur le marché du haut de gamme. En avril, c'est le GIGN, unité d'élite de l'armée française, qui a choisi les fusils d'assaut du fabricant Česká zbrojovka, un nouveau positionnement confirmé par les chiffres, selon Jiří Hinek.
Nous produisons davantage de matériel sophistiqué et vendons moins de vieux stocks remaniés. L'intérêt pour nos radars passifs et nos émetteurs radio confirme cette tendance. Les exportations dans ce domaine ont augmenté de plus de 80%.
Le soutien sans faille du gouvernement contribue à ce succès à l'export. Pour 2017, pas moins de 40 voyages officiels sont ainsi prévus, avec pour mission de décrocher de nouveaux contrats. Inversement, toutefois, le ministère de la Défense a annoncé lundi l'achat de 80 véhicules blindés à une société italienne. L'étranger représente 90% des ventes tchèques dans ce secteur, une proportion habituellement comprise entre 10 et 30% dans les pays occidentaux. Même si ces ventes à d'autres pays ne sont parfois pas sans risque, Jiří Hinek assure que tous les moyens sont mis en œuvre pour empêcher que les armes atterrissent par exemple entre les mains de groupes terroristes.
Nous disposons à l'échelle internationale de mécanismes importants de contrôle pour empêcher que cela se produise. Aucune société tchèque ne souhaite que ses armes finissent entre les mains des membres de l'État islamique par exemple. D'un point de vue commercial, ce sera là une catastrophe pour la société en question. Personne ne soutient donc de telles organisations. Cela n'empêche pas qu'un terroriste puisse tuer un soldat de l'armée irakienne, lui prendre son arme et l'utiliser ensuite. Cela arrive dans tous les conflits. Notre devoir est donc d'assurer que ce phénomène ne soit pas massif et qu'aucune entreprise tchèque ne fournisse des armes du mauvais côté de la barricade.
Une précaution non négligeable à supposer qu'elle ait été prise avec sérieux pour les 1180 licences d'autorisation de vente délivrées l'année dernière par le ministère de l'Industrie et du Commerce.
Directrice générale adjointe de l'administration des douanes tchèques, Vendulka Hola, 60 ans, passe pour une personne clé dans le domaine de la coopération douanière franco-tchèque. Parfaitement francophone, ayant vécu pendant 5 ans en Algérie avec son mari médecin, Vendulka Hola a reçu récemment les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à l'ambassade de France à Prague. Une manière de récompenser le parcours exceptionnel de celle qui a été un des principaux artisans du rapprochement des douanes tchèques et françaises après la révolution de velours, dans le cadre des préparatifs de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne. Ces négociations d'adhésion ont été un défi majeur pour Vendulka Hola, comme elle nous le raconte.
C'était une période assez exigeante parce que il faudrait s'y préparer à l'adhésion dans l'Union européenne. Et de point de vue douanière, c'était assez exigeant parce qu'il faudrait changer la législation. On a été obligé d'harmoniser totalement la législation douanière. Et c'était les experts français qui nous ont énormément aidés. Le code douanier qui a été adopté, il était tout à fait nouveau. On l'a appelé le code douanier Guy Rouillère parce que c'était notre collègue français qui nous a énormément aidés. Sans son appui, sans son explication, on ne pourrait jamais atteindre le but, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle législation. Et puis, c'était le tarif intégré parce que vous devez imaginer que tous les jours, on reçoit de la part de Commission européenne le tarif intégré. C'est la base pour faire classification et pour établir les droits de douane. Alors, c'est énormément techniquement exigeant et il faudrait le préparer. C'était une petite Française, Madame Pascal, qui nous a énormément aidé parce que elle nous a enseigné dans notre centre de formation. Alors, c'était vraiment exigeant. Et en plus, on a pris l'administration des accises et c'était le 1er juin 2004. Alors, on n'avait que 2 années pour se préparer à l'administration des accises. Et maintenant, ça représente 15% du budget national. Alors, c'était assez important. Et moi, j'étais responsable pour un grand projet de jumelage qui représentait à peu près 500 000 d'euros. Et ça a pris 2 ans pour se préparer à l'administration des accises. Et c'était non seulement une nouvelle législation, mais il faudrait préparer les gens, il faudrait les former. On a commencé de zéro et dans 2 ans, on a atteint le but et on a perçu beaucoup plus que c'était attendu.
Depuis l'entrée de la République tchèque à l'Union européenne, comment a évolué la coopération entre la République tchèque et la France dans le domaine douanier, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme aussi?
Et oui, parce qu'avant l'adhésion, on a plutôt reçu l'assistance technique. Après l'adhésion, on est devenu partenaire. On organise presque tous les ans des séminaires à l'Institut qui sont destinés aux opérateurs économiques. Et on essaye, en coopération avec les experts français, de leur donner des renseignements actuels sur le développement de la législation douanière, mais aussi parce que vous savez, on est vraiment les champions dans la formation des chiens. Et le dernier trend qu'on a, c'est formation des chiens qui cherchent l'argent. Parce qu'il y a, et vous avez demandé le sujet de terrorisme, c'est étroitement lié avec le sujet de terrorisme. Parce que cet argent qui est illégalement importé dans le pays tiers, cet argent est assez souvent utilisé pour financer le terrorisme. Et puis, il y a les biens culturels qu'il faut contrôler parce que le terrorisme, ils les utilisent aussi pour financer le terrorisme. Et pour la douane française, on a fait des saisies assez importantes parce que, par exemple, on a fait la saisie des armes qui étaient destinées aux organisations extrémistes en France et on a fait aussi une saisie importante des drogues synthétiques qui étaient destinées, c'est le cristal, ça on appelle cristal chez nous, c'est le pervitine, et on a fait la saisie assez importante. Alors on protège nos citoyens, on protège leur santé et leur sécurité, et la lutte contre le terrorisme, c'est l'une des priorités pour la douane aujourd'hui.
Gertrud Soika Baum, appelée plus souvent Trude Soika, était une peintre et sculptrice juive d'origine tchèque, rescapée de la Shoah, et elle s'est enfuie après la Seconde Guerre mondiale pour l'Équateur, un pays dans lequel elle a commencé une carrière artistique couronnée de succès. Près de 10 ans après sa mort, sa petite-fille, Gabriela Steinitz, s'est rendue en République tchèque pour apprendre un peu plus sur son destin particulier. Alžběta Rušková l'a rencontrée.
Chapitre de l'histoire. sais qu'en fait, elle est née à Berlin en 1909 et elle venait d'une famille tchèque, juive. Donc quand elle était petite, ils se sont installés à Prague, à la rue Napošići. Elle a vécu là toute sa vie jusqu'à ce qu'elle a étudié à Berlin, à l'Académie des Beaux-Arts. Et ensuite, elle s'est mariée à un Slovaque et ils sont partis vivre à Nitra, en Slovaquie. Et puis la guerre est venue et ils sont passés par une série de camps de concentration dans Auschwitz. Et donc, voilà. Et puis, elle a réussi à survivre. Malheureusement, sa famille, non. Mais elle a trouvé son frère qui s'était réfugié en Équateur juste avant la guerre. Et donc, ils se sont rencontrés là-bas. Donc, bon, je peux dire en gros que ma grand-mère est d'abord une artiste et ensuite une survivante de la Shoah.
C'est en Équateur où elle va rencontrer son mari aussi et commencer une nouvelle vie. Son mari, c'est un Allemand, aussi un survivant de l'Holocauste.
En fait, le frère de ma grand-mère, Walter Soika, il avait un magasin d'artisanat et il était aussi chimiste. Et je ne sais pas exactement comment, mais ils se sont rencontrés avec cet Allemand juif aussi. Et ils sont devenus très amis. Son nom était Hans Steinitz. Et quand ma grand-mère est arrivée, dans le bateau, juste après avoir passé les douanes, il y avait le frère de ma grand-mère, Walter, et à côté de lui, Hans Steinitz. Donc c'était l'amour à première vue. Et 2 ans après, ils se sont mariés.
Est-ce qu'elle est revenue quand même en Tchécoslovaquie après ?
Jamais. Elle n'a jamais voulu. En plus, il y avait le communisme jusqu'en 1989. Et après, elle était trop bien chez elle. C'est ce qu'elle disait. Donc, elle n'est plus jamais partie ailleurs.
Avait-elle des amis tchèques, par exemple, en Équateur, d'autres tchèques peut-être qui ont émigré là-bas ? Ou avait-elle quand même des contacts, des liens avec la culture tchèque ?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Il y avait beaucoup de Tchèques juifs et non-juifs qui étaient venus pendant la guerre et après la guerre en Équateur. Il y avait des médecins de toutes sortes de métiers. Et ouais, c'était... Même ma maman avait dans sa classe des copains, des copines tchèques. Donc oui, il y avait un petit groupe, une petite société tchèque.
Bien que Trude Soika soit morte en 2007, quand sa petite fille n'avait encore que 12 ans, Gabriela Steinitz dit avoir été très attachée à elle. C'est en effet de sa grand-mère qui l'a incitée à devenir artiste. Gabriela fait aujourd'hui des études d'art en France. Selon le modèle de Trude Soika, elle se consacre avant tout à la sculpture et à la peinture, mais aussi par exemple à la photographie.
Je me souviens encore quand j'avais peut-être 3-4 ans, j'allais dans son atelier et je la voyais peindre ou former des formes avec le ciment. Je me souviens aussi de sa cuisine. Elle faisait beaucoup de gâteaux que j'adorais. Elle avait toujours une expression un peu triste quand elle était seule. Parfois j'avais envie de faire quelque chose pour elle et je ne savais pas quoi et je ne savais pas pourquoi parce que je ne comprenais pas ce qu'elle avait vécu.
Donc c'est d'où venait votre décision de partir en Tchéquie? Parce que en fait l'année dernière vous avez effectué un Erasmus à Brno, donc à Moravie. C'est la première fois que vous avez venu en République tchèque?
Non, c'était pas la première fois. En fait, je suis venue en 2004 d'abord, quand j'avais 8 ans, avec ma mère et ma tante pour visiter un peu la ville de ma grand-mère. Et c'est un voyage qui m'a beaucoup marquée, même si j'étais jeune, trop jeune. Mais on avait visité aussi Térésine. Oui, c'était quelque chose de très impactant. Et ensuite, je suis venue en 2015, suite à une rencontre avec une personne tchèque. Et donc, j'ai voulu revenir. Et l'année suivante, j'avais l'opportunité de venir à Brno avec Erasmus. Et après la fin de ce semestre... Pendant les vacances d'été, j'ai beaucoup voyagé autour de la République tchèque et puis en Pologne, dans les environs, pour retracer cette histoire.
Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Ouais, j'ai découvert beaucoup de choses, surtout beaucoup de documents. Au début, je ne savais pas vraiment où j'allais. J'allais juste aux archives parfois chercher une date ou chercher si quelqu'un existait vraiment de la famille. J'ai aussi fait des recherches pour mon grand-père en Pologne, en Slovaquie aussi de la part du premier mari de ma grand-mère. Avec son mari, ils habitaient à Nitra jusqu'en 1942 et il y a un épisode très étrange que je n'arrive toujours pas à résoudre. En 1942, ils ont été marqués dans une liste de transport vers la région de Lublin, peut-être vers Majdanek. Et ils ont été rayés de la liste. Et il n'y a qu'une trace d'eux jusqu'en 1944. Et en 1944, après la révolte slovaque nationaliste, en septembre, ils ont été transportés à Selej et à Auschwitz pendant un mois. Donc ils étaient en transit. Et là, ma grand-mère s'est séparée de son mari. Elle ne l'a plus jamais revue. Et elle a été transportée à Gross-Rosen, que je viens de visiter il y a quelques jours. Et là aussi, j'ai fait beaucoup de découvertes. Par exemple, une lettre qu'elle a écrite en demandant au commandant du camp de lui laisser garder l'urne avec les cendres de sa fille, qui était déjà morte. Aussi des témoignages de gens qui ont connu ma grand-mère, mais qui sont malheureusement décédés, donc je ne peux plus les contacter. J'ai découvert aussi des choses sur sa famille, par exemple sa sœur avec son mari et son petit enfant. Ils ont été transférés à Térésine et ils sont morts à Auschwitz. Et la mère de ma grand-mère, elle était morte à Malitrostinets. Donc c'est des choses comme ça que j'ai découvertes.
Vous les avez découvertes juste pour vous ou vous envisagez peut-être par exemple de les publier un jour, de faire une biographie?
Absolument, j'aimerais bien faire une biographie et faire une exposition aussi peut-être à la Maison culturelle ou quelque part ailleurs.
Trude Sojka est aujourd'hui une artiste reconnue dans le monde entier. Elle a reçu plusieurs prix en Amérique latine, aux États-Unis ou encore en France. Elle est connue notamment pour sa technique artistique de recyclage et pour son emploi du ciment dont elle a été la pionnière. Gabriela Steinitz nous décrit son œuvre et ses diverses influences.
En fait, cette technique du ciment et du recyclage, moi je pense qu'elle est née de son expérience pendant la Shoah dans les camps de concentration. Le ciment, c'est un matériel très dur et en même temps facile à obtenir. Quand ma grand-mère et mon grand-père ont construit leur maison à Quito, ils ont vu comment les maçons ils employaient ce matériel. Et pour ma grand-mère, qui était plus une sculptrice qu'une peintre, c'était fascinant de voir comment ce matériel séchait très vite. Et comment on pouvait faire des formes presque autant bien que la céramique. Et en plus, elle n'avait pas beaucoup d'argent, donc elle pouvait pas se permettre d'acheter de la céramique, de la mettre au four. C'était trop cher à l'époque pour elle. Donc, ce matériel pour elle, c'était la chose la plus extraordinaire du monde. Et ensuite, je pense que pendant son expérience dans les camps de concentration, elle utilisait tout ce qu'elle pouvait autour d'elle. Par exemple, elle trouvait un clou et c'était quelque chose de fascinant. Elle pouvait voir un monde avec ça. C'était déjà un personnage, un clou. Et donc, elle a fait des assemblages comme ça avec le ciment, comme une espèce de gomme. Et les matériaux retrouvés, du verre, du métal, jamais du plastique. Elle n'aimait pas ce matériel. Et c'est comme ça qu'elle a construit ses sculptures et ses tableaux en relief.
Et les sujets?
Et les sujets, ils varient en fonction du temps. Selon ma mère, qui est une historienne de l'art, elle a divisé l'œuvre en 4 étapes. Donc la première, c'est juste après l'Holocauste. Elle a fait des tableaux très, très mouvants, très touchants, surtout des femmes, des corps. Soit un peu abstrait, soit très triste avec des couleurs sombres, bleus, aussi du rouge. Elle a très peur du feu. Ensuite, il y a une deuxième étape où elle a découvert l'art de l'Équateur, l'art autochtone. Donc, elle s'est fascinée surtout par les pétroglyphes dans les cavernes. Elle a voulu mélanger son style expressionniste avec ses dessins. C'est aussi une œuvre très symboliste. Beaucoup d'oiseaux, parce que Soika, c'est un oiseau. Ensuite, il y a eu une autre étape. Elle a eu des enfants, donc c'était plus tendre. Elle a représenté des scènes de maternité. Aussi, pendant qu'elle était au camp de concentration, elle était enceinte. Elle a perdu son enfant 2 semaines après la libération. Donc pour elle, c'était un thème dur qu'elle devait réaborder par sa peinture. Et la dernière étape, c'est à la fin de sa vie, elle a fait des thèmes encore plus tendres, mais aussi des choses abstraites. L'univers, la nature, la forêt, des thèmes naturels, bien sûr, mais aussi la mer, le carrousel, des choses, vers le jeu, l'enfance, parce qu'il y a aussi, il y a eu aussi ces petites filles qui sont nées. Et voilà.
À Quito, à la capitale de l'Équateur, vous avez ouvert avec votre mère une maison culturelle de Trutsoika. Qu'est-ce qu'on peut y voir ?
C'est surtout ma mère qui l'a ouverte en 2009. Moi, j'étais encore trop jeune. J'ai participé un petit peu, mais c'était surtout ma mère. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Déjà l'œuvre de Trutsoika, mais aussi il y a un petit mémorial de l'Holocauste. Au sous-sol, mes grands-parents ont construit une chambre pour stocker de la nourriture, des couvertures, des objets qu'ils pouvaient utiliser au cas où il y aurait une autre guerre. Ils étaient toujours effrayés par cette possibilité, même en Équateur. Donc, dans cette chambre, ma mère a aménagé un espace avec des photos de camps de concentration, de la guerre, des ghettos. Et il y a un espace aussi pour les expositions temporaires. Surtout de jeunes artistes qui commencent, et toujours à voir avec la paix ou avec la recherche de la non-discrimination. Et on est toujours dans le projet d'ouvrir un petit café avec des spécialités tchèques, selon les recettes de ma grand-mère. Sinon, parfois on fait des projections de films tchèques, et des petites fêtes. Il y a souvent des réunions de tchèques. L'ambassadeur de l'Équateur et du Pérou, chaque fois qu'il vient en Équateur, il passe par cette maison et les autres Tchèques expatriés ils se rassemblent dans cette maison.
Donc ça fonctionne comme une vraie institution tchécophile au sein de l'Équateur.
Un petit peu, oui.
Vous m'avez parlé d'un projet d'une exposition de Trutsoika ici en République tchèque. Où en est-ce que le projet actuellement ?
Ce projet-là, il est un petit peu paralysé par manque de fonds. Donc on cherche toujours à financer le transport entre l'Équateur et Prague, ce qui est le plus cher. Sinon, on sait à peu près ce qu'on va exposer. On a été accepté par le mémorial de Térésine. Ce serait pour l'année prochaine, peut-être. On n'a pas encore de date, mais peut-être ce sera plutôt vers la fin de l'année.
Merci Aljbeta pour ce nouveau numéro des chapitres de l'histoire consacré à l'artiste plasticienne Trude Soika. Ainsi s'achève, chers amis, le programme de Radio Prague en français. Magdalena Hrozinkova vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas que le reste de l'actualité tchèque, c'est au www.radio.cz/fr. Au revoir, portez-vous bien, à demain.